Bonjour et bienvenue à tous. Vous écoutez l'émission Cinébrunch, votre magazine de cinéma qui s'assume. Mon nom est Jim Boulay et je suis en compagnie de Louis Laramé et Mélina Lopez-Nadeau. Bonjour!
Hello, hello!
Bonjour.
Le temps des fêtes est arrivé. Dans un peu plus d'une demi-heure, on vous présentera nos suggestions de films pour le temps des fêtes parce que pour plusieurs, vacances riment avec divertissement et donc cinéma. Vous serez peut-être tenté d'aller vous divertir avec le film Trip à 3 qui met en vedette Martin Matt, mais avant d'y aller, écoutez notre discussion sur ce film un peu plus tard dans l'émission parce qu'on l'a vu et tous les trois et qu'on est un petit peu déçus, sauf Louis qui est très très déçu. Donc, c'est une façon, un euphémisme.
Je pense que c'est ça, c'est une bonne manière. C'est comme OK, c'est bon.
C'est ça. Sinon, dans quelques minutes, on critiquera les films Jumanji 2. Je ne sais pas s'il faut l'appeler comme ça.
Non.
Ah, Jumanji.
Bienvenue dans la jungle.
Bienvenue dans la jungle. Le maître de la scène et au revoir là-haut. Donc, et Louis, quoi de neuf dans le monde du sport?
Calmez, celle-là, elle arrive du champ gauche.
Si la, oui, tout à fait.
Mais il y a présentement une pétition avec plus de 45 000 signatures pour retirer Le Dernier Jedi, le dernier film de Star Wars, de la continuité de Star Wars. Ça a été parti par un super fan qui, en beau maudit, qui a vraiment pas aimé le film, et spécifiquement
mais voyons
qui
donc.
Allait que le créateur, que le réalisateur, Rian Johnson, a détruit l'héritage, l'intégrité et la continuité historique de Luke Skywalker en le présentant comme un personnage faillible, en le présentant comme étant quelqu'un qui a fait des erreurs qu'il aurait pas dû faire. Fait que... tout ça est dirigé principalement vers Rian Johnson, le directeur, qui aurait fait un usage insultant des personnages et des outils que l'univers Star Wars lui offrait.
Y a-t-il beaucoup de monde qui ont embarqué dans ce mouvement-là?
45 000 signatures
en
dedans de 3 jours.
Aïe aïe!
Mais en même temps...
j'ai trouvé bon ce film-là.
Ben, je sais pas si t'as lu un peu ou si t'as regardé un peu ce qui était sorti après. En tant que critique, on fait partie du 93% de Rotten Tomatoes qui dit que c'est fresh.
Oui,
donc, il y a seulement 7% des critiques qui trouvent que c'est pas bon. Mais il y a 53% des usagers et des fans réguliers qui, sur Rotten Tomatoes, ont voté pour descendre ça à 53%.
Aïe, aïe, aïe.
C'est un des plus gros disconnects entre le film et entre les fans et les critiques pour un film de Star Wars, particulièrement dans cette direction-là.
Mais on pourrait dire aussi entre le film en tant que film et le film en tant que continuité de l'histoire.
Ben, effectivement, il y a beaucoup de gens qui vont argumenter que c'est là le problème. Puis il y a aussi beaucoup d'analyses qui se font au niveau du fait que si on regarde le film en tant que film individuel, en tant qu'en dehors de son contexte, c'est effectivement un excellent film qui reprend certains des thèmes de l'univers Star Wars, qui en élimine certains autres. On rentrera pas dans les divulgations, mais il y a quand même beaucoup de mystères qui avaient été mis en place dans Le Réveil de la Force qui n'ont pas été travaillés ou qui ont été vraiment...
qu'on garde clairement pour l'épisode 9
aussi. Qui ont eu
des
conclusions... Là. Décevante par rapport à d'autres trucs qu'on a vu dans l'univers Star Wars. Fait qu'il y a beaucoup de gens qui disent qu'en réalité, c'est un excellent film, mais c'est un mauvais Star Wars parce que ça ne travaille pas dans un univers constant comme pouvaient le faire d'autres films. Fait que c'est un peu ça en ce moment là qui travaille.
Est-ce que le réalisateur a réagi à ça?
Non.
Pas encore, ok. Peut-être un jour, peut-être jamais.
Ben, Disney n'a pas répondu, mais Disney avait déjà un peu répondu en donnant la direction à Rian Johnson des trois prochains films de Disney. Donc le 10, 11, 12 sont sous l'égide créatrice de Rian Johnson. Okay. Fait que je pense que Disney a déjà répondu à sa manière v'là 6 mois.
Bon, ok. Fantastique. Et sinon, Mélina, de ton côté?
Moi, cette semaine, j'ai regardé un film sur Netflix de Noël. Ça s'appelait A Very Murray Christmas. Donc, c'est avec Bill Murray. Oui, on a aussi Miley Cyrus. Je pense qu'elle chante 2 chansons, puis c'est à peu près tout. Mais ça
le fait.
On l'a mis dans son environnement. Bon.
C'est un beau contexte. Toi, Jim, t'as-tu des nouvelles pour nous cette semaine?
Écoutez, potin de star, mesdames, messieurs, que... personne, moi compris, n'a envie de le faire. Je suis à mon 2e mois de texture que j'ai gagné, rappelez-vous, en achetant une frite chez McDonald's. Et le prestigieux et hautement journalistique magazine Star révèle vous avez entendu le sarcasme, révèle la formation en cours d'un couple hors du commun, Brad Pitt et Jennifer Lawrence, âgés seulement de 26-27 ans. Brad, pour ne pas dire Pitt, a le double de son âge. Donc, est-ce que ça va se concrétiser ou pas? C'est à suivre dans le magazine Star. Bon, sinon, sur Netflix, c'est pas si récent que ça, mais je voulais en parler quand même parce que ça m'a un peu frappé. Connaissez-vous Death Note?
Je connais l'anime.
Voilà. Ben, c'est ça. C'est originalement un manga animé japonais qui date du milieu des années 2000. Et c'est l'histoire d'un cahier bien spécial qui tombe du ciel, ou plutôt du monde des ténèbres. Dans ce cahier-là, quand on écrit un nom, la personne meurt. La personne dont on a mis le nom meurt. Et donc, c'est une série policière particulièrement intéressante. En tout cas, moi, j'ai beaucoup apprécié l'anime. Et à ma grande surprise, je suis tombé là-dessus sur Netflix, un film, donc avec des vrais acteurs, qui reprend l'histoire de la série.
Oh, Jim!
Mais au cinéma...
C'est pas
écoutable. Puis on s'y est de rendre ça, c'est pas trop, un peu comme un film d'ado.
Puis il y a aussi tout l'aspect que le personnage est blanc, alors que dans la série, c'est très clairement japonais. C'est un film qui a mangé énormément de boulets de canon quand ça a sorti. Mais ouais, t'as eu la chance. J'ai même pas osé.
Écoute, j'ai pas terminé, okay. Parce que j'ai pas été capable. Mais, bon, évidemment, une transformation un peu de l'histoire pour le rendre vraiment ado. Il s'éprend d'une jeune femme qui va, comme elle-même, écrire dans le Death Note. Donc, on trafique un peu l'histoire originale. C'est assez décevant, franchement.
Pour ce qui est des reprises sur Netflix qui sont intéressantes, Castlevania, qui est tiré d'un jeu vidéo
des
années 90, il y a une série animée qui ne compte pour l'instant que 4 épisodes, originale sur Netflix, qui est excellente.
Le petit jeu vidéo.
Ce petit jeu vidéo qui a quand même évolué. La dernière sortie date de 2015.
Okay.
Mais la série animée est vraiment excellente. Ça en est presque triste qu'il n'y ait que 4 épisodes de sortie en ce moment.
Ah.
La suite est prévue pour... milieu 2018.
All right. Bon, ben c'est tout. Sinon, on écoute vos critiques dans quelques instants. Et en attendant, mettez de la cannelle dans votre popcorn parce que c'est Cinébrunch du temps des fêtes. Louis, tu es allé voir Jumanji. Est-ce que tu as vu Robin Williams?
Est-ce que Robin Williams était dans le
mon
nouvel...
Dieu, oui. Il était dans le vieux?
Oui, mais j'ai vu l'original. Ça, c'est pas... Okay. Je pensais que tu m'annonçais qu'il y avait eu un caméo de...
Non, j'aurais bien aimé, mais en fait, c'est ce que je voulais savoir.
Je pense... J'ai pas lu à ce sujet-là, j'ai pas vu à ce sujet-là, mais je dois admettre que j'ai été un peu... Je l'ai vu un peu à contre-cœur. J'ai une confidence à faire à nos auditeurs, auditrices. Je suis un puriste. J'aime mes films... En langue originale,
peux
les avoir. Et en ce moment, à la Maison du cinéma, il n'est disponible qu'en français.
Jusqu'à demain, je pense, ou après-demain,
bientôt. Assez pour que je sois mécontent. Mais c'est pas grave. Je vais juste faire un résumé rapide. Après ça, on écoute la bande-annonce, puis après ça, je te passe ça là-dessus.
Bien sûr.
OK. Fait que Jumanji, bienvenue dans la jungle. Ces 4 adolescents du secondaire qui découvrent une ancienne console de jeux vidéo et sont aspirés à l'intérieur de celui-ci, devenant littéralement les avatars qu'ils ont sélectionnés. Ils découvrent alors qu'ils ne peuvent pas uniquement jouer à Jumanji. Ils doivent le vivre et tâcher de survivre. Pour battre le jeu et revenir dans le monde réel, ils devront se lancer dans l'aventure la plus dangereuse de leur vie et découvrir l'univers dangereux dans lequel Alan Parrish a été projeté il y a plus de 20 ans de cela. Fait qu'on va aller écouter la bande-annonce, puis après ça on part.
Nos petits comiques, soyez les bienvenus en retenue. Spencer, Bethany, Fridge, Martha. Vous savez tous très bien ce qui vous amène. Vous devriez vous demander qui vous êtes et qui vous voulez devenir. Fort heureusement, vous allez avoir tout le temps d'y réfléchir en rangeant le sous-sol.
Oh la vache, pourquoi je suis petit ?
Mais tu es Fridge ?
Ouais, je suis Fridge, t'es qui toi ?
C'est moi, Spencer.
Et elle là, qui c'est ?
Martha, je crois qu'on a été aspiré dans le jeu et qu'on est devenu les personnages qu'on a choisis.
Autrement dit, je suis...
Bethany.
Oh, Bethany, Bethany! Non! Je suis devenu un homme mûr et obèse!
Est-ce que c'est The Rock qu'on entendait?
C'est The Rock et Jack Black, la réplique à cet endroit-là.
Bon,
fait que si vous n'avez pas compris de la bande-annonce, ce que c'est finalement, c'est 4 adolescents, Spencer, Fridge, Martha et Bethany, qui sont des stéréotypes, ou même, j'irais plus loin et dire que c'est des archétypes de jeunes adolescents.
Okay.
Spencer, c'est l'espèce de nerd qui joue à des jeux vidéo sans arrêt, qui est pas capable de tenir tête à ses amis. Fridge, c'est un jeune homme noir d'une carrure de frigidaire qui joue au football. Martha est l'espèce de high-powered qui veut se rendre jusqu'à Harvard alors qu'elle a à peine 15 ans, qui est déjà en train de construire sa carrière d'avocate. Et Bethany, on la voit avec un selfie stick en train de se pavaner pour Instagram.
Ah, aïe. OK.
ça, c'est la prémisse de cette histoire-là. Évidemment que ces quatre personnages-là sont alors transformés dans le jeu vidéo en Spencer devient... Dwayne The Rock Johnson.
Ok, The Rock, c'est un personnage, c'est pas...
Yes, en fait...
C'est pas le personnage réel de l'histoire, c'est un personnage fictif qui apparaît.
En fait, okay. C'est ça, les quatre personnages principaux sont des avatars. Fait quand tu vois sur la liste IMDb, Dwayne Johnson, Karen Gillian, Kevin Hart et Jack Black, qui sont des acteurs extraordinaires, ou à tout le moins, certains d'entre eux le sont, c'est théoriquement des avatars pour les gens qui le sont. Fait que... La blague, ou l'espèce de début intéressant de cette histoire-là, c'est que Dwayne Johnson, on s'en rappelle, qui a un personnage massif, gigantesque, avec des muscles qui n'en peuvent finir, c'est le nerd.
Oh, c'est intéressant!
Kevin Hart, qui fait 5 pieds 5 dans la vraie vie et a un physique un peu diminutif, c'est Fridge. Martha, qui est très consciente de son... qui a des complexes à propos de qui elle est, de ce qu'elle a de l'air, c'est maintenant Karen Gillian à moitié habillée. C'est Bethany, notre jeune ingénue d'Instagram. C'est Jack Black. Tu as déjà vu Jack Black, entre autres, dans l'école du rock.
Oui, ben c'est ça.
C'est un homme dans la cinquantaine obèse, là. C'est pas...
C'est ambitieux.
Oui! Okay. Puis là, je fais une confidence tout de suite. Ça fait longtemps que j'ai vu l'original.
Oui.
Mais j'ai été relire le synopsis sur Wikipédia. C'est pas la même chose. Ça s'appelle Jumanji parce que la prémisse est la même. C'est-à-dire que c'est quatre personnes qui sont intégrées dans un jeu qui doivent battre le jeu pour s'en sortir.
Mais c'est plus le jeu de société
et ça arrête là.
C'est ça. Okay.
Tout le reste, ils ont pris ce qui rendait ça intéressant et ils en ont fait une toute autre mouture.
OK.
Et j'ai ri. Okay, j'ai sincèrement ri devant ce film-là. Et non pas un rire cynique ou un rire ironique. Il y a des blagues qui sont tombées pour moi. Et là, j'ai des blagues qui sont tombées pour moi en français, tout croche traduit de France.
Donc imagine dans la vraie...
Dans la version originale, avec les voix originales, je suis un grand fan de Kevin Hart dans la vie de tous les jours parce que je trouve que c'est un comédien, c'est un humoriste extraordinaire qui fait une job vraiment bonne avec The Rock. On les avait vus, entre autres, dans... Agent presque secret l'année dernière. Puis c'était pas bon comme film, là, c'était rien d'impressionnant, mais la chimie entre les deux est vraiment intéressante. Qu'est-ce que c'est que ce film-là? Honnêtement, je te dirais ça réinventera pas le genre, c'est un peu léger.
Ouais.
Mais je vais quand même dire que ça réinvente l'idée d'un reboot ou d'une suite en la rendant intéressante. Parce que c'est la première fois que je vois un concept qui a été pris d'un film où j'ai un sentiment de nostalgie, mais qui a été bien faite comme retour. C'est pas The Minority Report, c'est pas tous ces films qui sont revenus récemment et qui sont juste pas... Point Break est un bel exemple de ça, pas écoutable. Celui-là est sincèrement intéressant, délicieux, bon.
Puis il est drôle en plus.
Et je te dirais, oui. Bon, c'est sûr que c'est pas parfait, là. Ça reste de l'humour gras, ça reste un peu... ça reste des stéréotypes américains beaucoup. Ça reste que les personnages féminins sont un peu sous-développés. Je te dirais que, à part des histoires d'amour, puis l'espèce de prise de conscience de son corps, tu sais, il y a une scène quand même drôle où Jack Black essaie d'expliquer à Karen Gillian comment flirter. Fait qu'on voit la face de Jack Black faire les mimiques d'une femme, d'une adolescente qui flirte. Ce qui est quand même à se mourir de rire et ça nous remet en tête que Jack Black est un humoriste physique extraordinaire.
Mm-hmm.
Mais ça reste vraiment cliché, là. C'est quand même gros. Ça m'a fait rire parce que c'est bien fait, mais c'est pas j'ai pas l'impression d'avoir redécouvert le cinéma en allant voir
ça. Non, j'imagine. Mais est-ce qu'on réussit à rentrer dans l'histoire? Parce que moi, la bande-annonce m'a fait penser un peu à Digimon, là, tu sais, où les personnes rentrent dans un jeu vidéo. Ben, les tout quoi.
Je te dirais qu'une fois à l'intérieur, t'oublies un peu qu'est-ce que c'est, puis tu y crois. Puis même, c'est un peu ça, toute l'histoire, c'est qu'eux-mêmes finissent par croire dans le personnage auquel ils sont. Fait que tu oublies un peu, il n'y a pas de rappel direct à qui ils étaient, ou il n'y a pas de... Ça devient vraiment bien les personnages. Je te dirais que si j'avais des critiques à faire, il y a quelques longueurs.
Oui.
Le méchant est tellement cliché et over the top que, honnêtement, j'ai failli rire à deux, trois reprises quand il est apparu sur l'écran.
C'était pas des moments où...
Ah non, c'est ça, là, c'était... Tu sais, le type contrôle la jungle, puis il y a des coquerelles qui rentrent dans les oreilles, j'étais comme là... Et évidemment, il est allemand. C'est un type qui s'appelle Von Pelt. Fait qu'évidemment.
On a une satire de la Deuxième Guerre mondiale ici.
Oui, il y a quand même un peu de ça. Okay. Les méchants sont vraiment stéréotypiques, over the top. Les personnages féminins, encore une fois, peu développés. À part être des personnages de qui on tombe amoureux, c'est vraiment pas là. Alors que les deux personnages masculins, Spencer et Fridge, vraiment plus. Parce que il y a toute une histoire d'amitié, il y a toute une histoire de. Un peu accepter qui on est physiquement, qui on est intellectuellement par rapport à ce que les gens s'attendent à ce qu'on soit. Fait que c'est ça. C'est pas. Je suis pas sorti de là. Mais j'ai. Comment
dire? T'as eu du bon temps, mais c'est pas un grand film.
Merci, Jim. Extraordinaire. Okay. Excellent. 7.8, même. Ah, 7.5. 7.5.
Moi, j'aime bien parce qu'il y a un par 0.5.
Ouais, c'est ça. Ouais. Puis, excellent film de pluie.
Ok.
Tu sais, une fin de semaine, il pleut, ça te tente pas de sortir. T'écoutes ça, c'est drôle. Ça te permet de passer à autre chose.
Bon, fait que ça sera être bon pour le printemps parce que là, il va neiger pour les prochains mois. Donc,
précisément. Mais c'est correct parce que ça sort en DVD dans 6 semaines.
Ah bon, ok.
Tu vois, c'est tout le temps aimé
cette
affaire.
Tout est réfléchi, hein, c'est ça.
Tout est dans tout.
Alright, merci Louis. Mélina, tu as vu une comédie musicale au cinéma.
Oui, exactement. J'ai vu Le Maître de la scène, donc The Greatest Showman. C'est une comédie musicale, effectivement, qui est inspirée d'une histoire vraie. L'histoire de P.T. Barnum, qui était un showman américain, on dit un peu le premier impresario, qui a été connu surtout pour avoir créé le cirque, le Barnum & Bailey Circus, un cirque qui a fermé tout récemment cette année, en mai, donc qui existait depuis la moitié du 19e siècle. Donc, c'est une histoire, c'est ça exactement, qui se déroule au début du... Ben, en fait, elle est vers la moitié du 19e siècle, donc on est aux années 1850 environ.
OK.
Ça commence lorsque Phineas y perd son emploi et que lui et sa femme vivent des difficultés financières. Puis, il décide alors de se lancer dans une carrière d'entrepreneur. Donc, avant d'en dire plus, on va écouter la bande-annonce.
P.T. Barnum, à votre service. Je prépare un spectacle. Et je cherche une star. Tout le monde a quelque chose de spécial. Et personne ne ressemble à personne. C'est le message de mon spectacle. Prêt? Que le spectacle commence. Personne n'a jamais fait de différence en faisant comme tout le monde.
Je peux pas tout foutre en l'air et me joindre à un cirque.
Pourquoi pas? Après tout, t'as visiblement le sens du show business.
Le show business?
Uh-huh.
Je connais pas ce mot-là.
Parce que je viens de l'inventer.
Une bande-annonce tout en musique et en chanson. Ça représente très bien le film, en fait, parce que c'est une comédie musicale, comme je le disais tantôt. Donc, c'est vraiment un beau film. Donc, on l'entend, il dit « je vais monter un spectacle ». Donc, c'est un spectacle qui ressemble plus à un spectacle de cirque, en fait. C'est vraiment avec du feu, des animaux, des acrobaties, des trapézistes. Puis, il va chercher plein de gens qui sont considérés comme différents, exclus de la société. Donc, il y a une femme à barbe, il y a un nain, il y a des jumeaux siamois, puis il y a des personnes de différentes origines également, parce qu'à l'époque, ça se faisait pas vraiment. C'est un personnage, en fait, qui est très controversé. Il y a déjà eu des films sur lui, sur sa biographie, vraiment plus. Ce film-là, c'est un film qui se concentre vraiment plus sur le côté spectacle, musique. Okay. Ça rentre pas autant dans les détails de... Parce que oui, effectivement, c'est une des grosses critiques qu'il y a eu à l'égard de ce film-là. C'est que c'était pas... qu'on avait comme enjolivé un peu le personnage qui était, dans le fond, peut-être pas si bon que ça, tu sais. Mais moi, je ne vais pas aller dans ce sens-là avec ma critique parce que je pense que si on l'analyse juste en tant que film, c'est un excellent film. On n'a pas encore parlé de la distribution, mais on a Hugh Jackman qui est très, très loin de son personnage Wolverine dans ce film-là. On a aussi Zac Efron qui a pris beaucoup de maturité depuis les High School Musical, qui joue Philip Carlyle, le partenaire de Barnum. Et on a Michelle Williams qui joue Charity Barnum, sa femme. Et c'est un film qui a été réalisé par Michael Gracie. C'est un film qui a été développé en 2009, en fait. Ça a pris 7 ans avant qu'il soit réalisé, oui. Ils croient que c'est à cause que les studios de production étaient frileux à l'idée de produire une comédie musicale. Mais dans les dernières années, surtout l'année passée, ils ont décidé de se lancer dans le projet avec le succès de La La Land, surtout. Là, mais c'est un film qui avait été développé bien avant ça. Puis il y a des similarités, là. En fait, c'est les mêmes personnes qui ont composé les paroles de ce film-là que pour La La Land. Et bon, pour la musique en tant que telle, la chorégraphie, c'est différent. Moi, c'est sûr que je suis une personne qui fait de la danse, fait que j'ai vraiment porté beaucoup d'attention aux chorégraphies du film. C'est une chose qui m'a vraiment beaucoup plu parce que, comme c'est un film qui se passe il y a à peu près 150 ans, on se dit, bon, mais la danse, est-ce qu'on va y aller dans quelque chose de plus moderne ou quelque chose de plus ancien? Mais je vous rassure, Le Maître de la scène, c'est un film qui réussit à être d'actualité tout en étant placé à l'époque. C'est-à-dire que au niveau des styles de danse, on a vraiment un côté plus danse urbaine qui est intégré dans les pièces de groupe. On va aussi dans du lyrique, du jazz, dans des scènes plus romantiques. Donc, c'est excellent. Écoutez, moi, ma comédie musicale préférée, je pense que c'est le film que j'ai vu le plus souvent de ma vie, c'est Grease. Je ne sais pas c'est quoi le titre en français, en fait.
Ça doit être la même chose.
Grease.
Hein? Grease.
Ouais. Okay. Je pense que c'est la même chose.
Ça, en fait, c'est Grease, le musical.
Ah, bon. Ah, alors, bon. Ça, c'est vraiment ma référence. Grease, le musical, alors, qui m'a vraiment fait triper. Je vous dirais que ça la cote, ça le dépasse pas. Il y avait un côté encore plus qui donnait vraiment plus envie de danser dans Grease là-dedans. Bon, un petit peu moins, mais c'est vraiment touchant. Puis il y a vraiment un super beau message dans ce film-là parce qu'en fait, P.T. Barnum, là, même quand il réussit, il fait son cirque, il a du succès, il en veut toujours plus, puis il va laisser il va partir en tournée avec une autre chanteuse pour la promouvoir, puis vraiment, il va devenir un impresario alors qu'il laisse sa femme à la maison avec ses filles. C'est un film qui a des super beaux thèmes, puis qui a aussi un vraiment beau message que je pourrais résumer rapidement en tant que la vie se passe maintenant, puis prenons le temps de vivre ce qu'on a à vivre. Puis c'est vraiment fort avec la musique, tout ça, c'est vraiment touchant comme film, là. Moi, j'ai versé quelques larmes à plusieurs répétitions, mais ça, c'est pas nouveau, là. On explore aussi des thèmes comme le racisme, dans le sens qu'il y a une fille de race noire, puis c'est vu, là, je veux dire, elle commence à fréquenter un blanc, puis là, on voit un peu tout le racisme là-dedans. Ils s'en vont rencontrer la reine Victoria en Angleterre, puis ils s'imposent en disant « Écoute, on vient tous ensemble ou on vient pas ». Donc, ça détruit un peu beaucoup de stéréotypes, de standards qui étaient très, très, très rigides à cette époque-là. Donc, on aborde ça aussi. Je trouve ça un beau clin d'œil, vraiment, que ça montre qu'aujourd'hui, on peut aborder ces thèmes-là dans des grosses productions. Donc, pour ça, c'est vraiment intéressant. Écoutez, c'est un film que je vous recommande fortement d'aller voir dans le temps des fêtes. Écoutez, si vous n'aimez vraiment pas les comédies musicales, allez-y pas. Mais moindrement, quelqu'un qui aime...
J'irai pas.
C'est que c'est encore plus qu'une comédie musicale parce qu'on explore encore plus d'art de la scène que dans d'autres comédies musicales, dans le sens qu'il y a du cirque, il y a des acrobaties, il y a du feu, il y a des animaux. Donc, c'est encore plus large qu'une comédie musicale. Puis ça vient vraiment donner toute sa puissance à ce film-là. Donc, je vous dirais une note sur 10, j'irais avec un solide 8 sur 10.
Eh bien, on va suivre ça. Merci beaucoup, Mélina.
Merci.
Pour avoir déclenché la guerre, pour avoir aimé l'affaire, pour en avoir profité...
Je ne veux pas être éclaboussé par vos combines.
Pas d'affaires, pas de vertu.
Vous êtes tous condamnés à mort.
Regardez !
Mais ça fait 4 ans qu'il t'attend.
Ton père, il sera content que tu rentres de la guerre, même avec le visage un peu esquinté. Et maintenant que la guerre est finie, tu vas disparaître.
Il ne reste rien de lui.
Si.
Vous venez d'entendre la bande-annonce du film « Au revoir là-haut », film réalisé et coécrit par Albert Dupontel, qui y joue d'ailleurs le second rôle aux côtés de Nahuel Pérez-Biscaillard. Dupontel interprète Albert Maillard qui, dans un commissariat, raconte à un policier l'histoire de ce qui l'a amené là. Donc, tout le film est un gros flashback. Le récit commence à la fin de la Première Guerre mondiale, à quelques jours de l'armistice, au moment où les Allemands, comme les Alliés, sont fatigués et, voyant la fin des hostilités arriver, n'osent plus trop se tirer dessus et restent tranquillement dans leurs tranchées respectives. Albert Maillard est un ancien comptable et comme bien des soldats, il a été forcé d'aller au front pour défendre sa patrie. Malheureusement, à cause de leur supérieur hiérarchique, le lieutenant Pradel, joué par Laurent Lafitte, les soldats se retrouvent sous les bombardements ennemis, les glissements de terrain et tout le tralala. C'est là qu'Édouard Péricourt, camarade d'Albert, le sauve de la mort au péril de sa propre vie, qui, lui, se retrouve dévisagé par un tir d'obus. Bon, la prémisse a l'air un peu dramatique et horrible, mais je vous jure que c'est pas du tout un film dramatique et horrible. Par contre, les scènes d'action au front durent à peu près une quinzaine de minutes au début du film, et après, la guerre est finie pour le reste du film. Mes chers amis, laissez-moi vous dire que ces 15 minutes-là sont du pur cinéma. Les plans et les mouvements de caméra sont absolument merveilleux et surtout la qualité des explosions, c'est surprenant pour un film de ce type-là. Je vous jure, le réalisme des explosions, c'est exceptionnel. On a vraiment, vraiment l'impression d'être à la guerre avec eux autres, de ne pas savoir quand on va sauter ou quand on va se retrouver enterré sous le sable. Cette année, on a eu un grand film de guerre avec Dunkirk et j'ai vécu une immersion, une tension équivalente, voire plus forte dans les 15 premières minutes d'Au revoir là-haut que j'en ai eu dans Dunkirk. Juste l'aspect explosif de ce début-là est assez exceptionnel. Mais c'est pas un film de guerre et d'explosion. Comme je vous ai dit, c'est simplement le début. Parce que l'histoire se passe réellement après la guerre. Ce Calbert, l'esprit cartésien et rigide, et Édouard, artiste et dessinateur, feront. C'est un film grandiose, poétique et modeste à la fois. On a droit à certains moments magiques, dignes de Délicatessen ou d'Amélie Poulain. Le film tisse habilement des liens entre famille, amour, haine et ambition. C'est touchant, sans jamais dépasser le stade de l'inconfort, parce qu'il y a l'espoir et l'humilité. Je vous en ai déjà trop dit. Je donne à Au revoir là-haut un solide 9 sur 10 et c'est ma plus haute note de l'année. Allez voir ce film-là, c'est un ordre. Il faut voir ce film en salle pour vraiment apprécier toute son intensité et son immensité.
Merci beaucoup, Jim.
De retour à Cinébrunch, dans une quinzaine de minutes, on va vous révéler notre top 3 des meilleurs films pour le temps des fêtes. Mais avant, on va faire notre critique à 3 du film Trip à 3, dont voici la bande-annonce.
Surprise!
Fin d'Estelle.
C'est quoi ça?
C'est une vue.
Ouais, il me semblait qu'on s'était dit pas de cadeau.
C'est la bulle fascinante.
Ça sent doux, ça vient, hein?
Je mets là, dedans.
T'as pas un besoin que j'ai pas comblé?
Arrête, t'es parfaite.
My God, je suis plate.
T'as toujours été plate.
Si tu penses que ça peut être bon pour notre couple, je vais me l'essayer. Fait que j'ai préparé un petit document.
Toutes des blondes, hein? Avec des gros seins.
Bon, pas remarqué.
Et là, tu vas te déniaiser.
T'as-tu déjà fait ça, toi, un threesome avec du monde ordinaire?
Ouais, pour qui, toi? Je fais du crossfit. Je bois de la kombucha, puis j'ai gagné des concours d'épilation, puis ça vient me faire la morale, est-ce que?
Comment faire un trip à 3? C'est la prof de Lily.
Puis?
Ouais, puis.
On est 3, on est jeunes, on est allés tous les 3 faire un trip au cinéma, puis devinez quoi, on a vu Trip à 3 et on n'en revient pas. D'ailleurs, ma mère et belle-mère est partie à Ottawa chercher du chocolat par rapport à ça. Donc, on a donc décidé de faire notre table ronde sur Trip à 3 avec des rimes en A. Donc, Louis.
J'ai pas de rime en A là-dessus. Je... Quoi? Wait! Il y a des concepts, faut qu'on s'en parle, là. Moi, j'ai j'y pensais pas.
Bon, on laisse tomber, alors. Donc, Louis, tu voulais nous lire le résumé du film avant de commencer cette table ronde.
Estelle, 34 ans, conjointe et mère de famille sans histoire, s'enfonce dans une vie rangée et prévisible. Mais une série d'événements remet son identité en question au point qu'elle en vient à réaliser que le nœud de cette crise existentielle est sexuel. Loin de sa zone de confort, elle se lance le défi d'organiser un trip à 3 entraînant avec elle dans sa quête folle son conjoint Simon, qui se sent tout aussi incompétent.
Ouais,
merci, Louis.
C'est, merci. Mais c'est drôle, hein, parce que quand on lit, on dirait que c'est ça.
Ouais, non. Ça aide pas. Je veux pas commencer.
Non, c'est mieux pas parce que ça va clore, là.
Mais dis-moi, qu'est-ce que t'as pensé, toi, du film?
Ouais. Ben, faut dire, en fait, en premier lieu, que c'est le film, c'est avec Martin Matt et Mélissa Desormeaux-Poulain, qui jouent les deux personnages principaux. Donc, qu'est-ce que j'ai pensé du film? Ben, écoutez, je pense qu'en termes de comédie québécoise en 2017, on a vu mieux. Je pense que c'est comme un film qui s'engage jamais sur l'autoroute. Il prend plein de petites routes, puis à un moment donné, tu penses qu'il va prendre le chemin pour aller sur l'autoroute, puis il va jamais.
Mais non, il stalle sur le bord du chemin.
Exactement. Puis après ça, il change, il fait un virage à 90 degrés, puis ça va de l'autre sens. Donc, on finit par un peu tourner en rond, si on veut. On finit par pas vraiment explorer d'avenue. On aurait pu explorer, je pense, différentes routes pour ce film-là qui auraient été sans doute intéressantes. Ce qu'on n'a pas fait, ce qu'on passe carrément à côté de plusieurs lancées qui auraient pu être vraiment excellentes, si vous voulez mon avis. J'ai quand même ri à certains moments parce qu'il y a des moments drôles, il y a des moments comiques. Pas au niveau scénaristique, mais au niveau plus du jeu des acteurs ou tout ça.
Oui, c'est drôle quand même, là. Entendons-nous, il y a des moments drôles dans le film, là.
Oui, puis je pense que on
je suis pas prêt à m'entendre là-dessus, non.
Non, mais je pense qu'il y a une tendance au Québec de prendre des gens qui sont pas des acteurs puis de leur donner des premiers rôles dans des films. Ouais. Je pense que Martin Matt, ça fait quelques années déjà qu'il essaie d'endosser le chapeau d'acteur. On l'a vu aussi avec Christian Bégin. Ça semble être une tendance qui revient, mais pourquoi pas laisser aux professionnels faire leur travail et laisser aux humoristes être humoristes, laisser aux gens faire ce qu'ils font le mieux. Et parce que moi,
moi, je suis pas tout à fait d'accord.
À la défense de Christian Bégin, il a fait du théâtre pendant plus de 25 ans avant de faire ses débuts au cinéma.
Ça paraît pas, mais le théâtre et le cinéma, de un, c'est pas du tout pareil comme jeu d'acteur. Puis ça paraît. Puis de deux, Martin Matt, je dis pas qu'il est pas très bon dans ce film-là, je dis juste qu'il manque de naturel, puis qu'il manque de...
Mais moi je pense que...
de jus.
Moi, j'ai trouvé que il avait réussi à bien doser le jeu de Martin Matt dans le sens où il fallait pas tomber dans l'espèce de cliché humoriste de Martin Matt, trouver un compromis sans décevoir trop les fans de Martin Matt, parce qu'évidemment... faut reconnaître son style, son comportement. J'ai l'image dans l'auto quand il amène le bouquet puis là on est dans le Martin Matt pur,
oui.
Mais on a quand même rencontré quelqu'un de sensible dans le film avec des émotions qui sont surprenamment pas ce qu'on pourrait s'attendre du personnage qu'on connaît de Martin Matt. Mais... ça c'était réussi de mon côté. Là.
Mais je sais pas, à un moment donné il fait juste complètement changer d'idée puis on comprend pas pourquoi puis ce jour je ne comprends pas encore pourquoi il a changé d'idée.
Mais ça c'est l'histoire là.
Non mais je veux dire, je pense qu'au niveau du jeu on aurait peut-être pu aller expliquer un peu, là, c'était juste comme...
Si je peux me permettre rapidement. Moi, j'aimerais quand même souligner le travail des acteurs de soutien dans ce film-là. Je pense qu'il y a énormément de très bon travail qui se fait dans les rôles secondaires. Je pense qu'il y a énormément de femmes qui font un travail sans pareil derrière ce film-là. Bon, ça, c'était la chose positive que j'avais à dire sur le film. J'ai jamais vu un tel ramassis de lieux communs, de jokes de pets, de calvinistes de niaiserie. À chaque fois que tu t'attends à ce qu'ils vont dans une direction pour faire une joke, pis, tu dis « Ah, il y a à peu près 8 fins possibles pour cette blague-là », nécessairement, ils vont prendre la plus cliché. À chaque fois qu'il y a moyen de tourner une histoire d'une manière ou d'une autre, nécessairement, ils vont y aller dans le plus safe, dans le plus prudent, dans le moins intéressant, dans le moins explorateur. Tu parles du changement d'avis de Martin Matt dans ce film-là, Simon. Effectivement, il n'y a aucune bonne raison là-dedans, mais il y a un paquet de personnages qui ont des considérations qu'on ne comprend pas. Mm-hmm. Qu'on parle de la meilleure amie qui est amoureuse en réalité ou qu'on sous-entend qu'il y a peut-être quelque chose qui explore jamais. Qu'on sait juste par une photo sur un cellulaire à un moment donné.
Oui,
c'est vrai, t'as raison.
Il y a des jokes de lesbiennes qui étaient datés du temps où mon père écoutait des shows d'humour. On dirait qu'on est comme dans un autre Québec. Mm-hmm. On dirait qu'on est dans le Québec du temps où est-ce que... je sais pas, où est-ce que les bougons n'existaient pas encore. Où est-ce que Guy Nantel faisait du mainstream. On est dans une époque où est-ce que Mike Ward a jamais existé. Ou est-ce que la seule manière de faire rire les gens, c'est d'y aller au plus safe? On est sorti de là, puis on a parlé avec certains gens qui l'avaient vu aussi, puis le consensus voulait que c'était comme le film facile de l'hiver. Mais j'haïs ça. J'haïs les films faciles, puis j'haïs les films québécois qui, plutôt que d'essayer de faire de l'art, qui plutôt... Oui, le problème d'infiltration, on s'est toujours pas entendu sur si c'était un film qui était du génie ou de la scrap, mais au moins, on a une opinion forte parce que c'est un film qui a pris des risques.
Oui,
là, on a vraiment...
Absolument.
C'est ça, là, on a...
Mais c'est une comédie aussi. On s'entend que ça n'a pas le même potentiel de risque qu'un drame
psychologique. Au contraire, c'est là qu'on aurait pu essayer d'y aller avec de l'humour noir, c'est là qu'on aurait pu aller avec du subversif, c'est là qu'on aurait pu essayer avec du deuxième degré de faire des explorations intéressantes. On n'a pas...
Oui, vous ne l'avez pas vu, mais un peu plus tôt cet automne, on a eu Innocent avec Emmanuel Bilodeau. Ça, c'était un bon film québécois humoristique. Là. Ça fonctionnait, en tout cas pour moi. On sortait des sentiers battus, on explorait des avenues, puis on faisait des choses qu'on n'avait pas vues, là, comme tu dis, là, depuis...
Puis si tu parles de comédies qui peuvent être risquées, Les Affamés avaient des éléments comédiques qui étaient super noirs, qui étaient super intéressants. Là, tu sais, les jokes un peu trash dans la voiture alors qu'il y a des enfants parce qu'ils essaient d'oublier quelque chose. Alors que là, les jokes servent juste à sortir le rire le plus gras du public le plus abruti. Honnêtement, excuse-moi Jim, je te coupe depuis tout à l'heure, vas-y.
Non, mais je veux dire, je suis assez d'accord dans le sens où c'est un film facile, tout ça. Mais justement, le problème de ce film-là, pour moi, c'est pas tant le niveau d'humour parce que je m'attendais à ça. Je veux dire, c'est Martin et Matt dans un film québécois, son premier gros film de comédie, c'était sûr que ça allait être du premier degré. Là, je veux dire, à ce niveau-là, j'avais pas d'attente supérieure à ça. Mais même dans son genre en lui-même, il réussit pas. C'est là que moi, je vois un problème. La seule scène dans le film, à mon avis, qui mérite vraiment sa place, c'est le fameux flashback. À un moment donné, il y a une espèce de flashback complètement qui sort de nulle part, où on comprend un peu plus la psychologie d'Estelle.
Oui, c'est vrai.
Ce moment-là est chargé de sens, de signification. C'est le seul moment dans le film où on a à peu près un peu d'informations sur le backstory d'un personnage. Ce film-là en a pas d'informations.
Puis on aurait pu explorer cette avenue-là.
Ben oui, on aurait pu aller là-dedans.
Puis on n'est pas du tout allé là.
C'est le seul moment dans tout le film où ce que on n'essaye pas de sortir un rire du public. C'est le seul moment où on se sent pas forcé d'avoir une joke. Que ce soit au travers Alex, la femme qui est collègue de travail de Simon, qu'on en sort une blague parce que Alex c'est une femme puis sa blonde ne savait pas. En fait. Il y a aussi l'autre aspect vraiment intéressant là, que toute la prémisse de ce film-là, c'est que, mon Dieu, que c'est drôle un couple qui sait pas communiquer Calvin's. Puis c'est beaucoup ça, là, comme énormément des blagues tournent autour du fait que il y a de la jalousie, ils sont pas capables de communiquer. L'espèce de collègue de Simon qui a peur que sa blonde le tue dans son sommeil.
Ça, c'est quand même drôle. Là. Moi, j'ai trouvé ça drôle un peu.
Et encore là, on sait pas trop pourquoi.
C'est ça, il y a pas d'explication.
C'est ça.
C'est trois scènes. Puis, tout ça aurait pu être réglé s'il avait tout simplement pris la peine de s'asseoir puis de jaser. Je sais pas qu'est-ce qui se passe au Québec pour qu'un couple dysfonctionnel soit si drôle.
Non, mais non, je sais pas. Probablement parce qu'on a beaucoup de couples dysfonctionnels au Québec. Je sais
non,
pas,
parce que de faire l'humour d'autre chose que ma blonde est donc si, ça nécessite de prendre des risques. Parce qu'il faut que tu ailles dans l'humour politique, l'humour d'actualité, l'humour absurde, l'humour qui sont tous des humours qui te mettent en danger. L'humour de ma blonde est donc si, t'es safe.
Exactement. Ouais. C'est un film qui prend pas de risques, puis je pense que c'est le gros problème de ce film-là, en fait. Ouais. Un des gros problèmes.
Puis c'est pas si drôle non plus. Je veux dire, il y a des moments drôles. Moi, j'ai trouvé très cocasse la scène de l'huile à massage, là, personnellement. C'était une simplicité, mais...
Non, c'était banal. Honnêtement, c'est le genre de blague
qui était... Le côté temporel rendait ça drôle.
Non. Non, je trouvais... honnêtement, là, je suis sorti de ce film-là. J'ai pris une longue marche en sortant. Et sais-tu c'est quoi le film qui m'est sorti le plus fort dans l'esprit? Un classique du cinéma québécois? C'était Camping Sauvage, qui était un autre Calvin's de déception, d'humour pas de classe, qui essayait le moins possible. Puis, il va falloir un moment donné qu'on se réveille puis qu'on arrête de financer des projets, parce qu'il y a aussi souligné que ce film-là a pris la même enveloppe que des trucs comme Le King, comme Problème d'infiltration, comme Tadoussant, qui sont des films qui essayent quelque chose. Puis là, on a... de la grosse crap.
Alors qu'on a eu, encore une fois, je reviens là-dessus, mais la comédie québécoise Innocent, qui a pas eu une très grosse enveloppe, là, qui ont fait avant d'avoir le financement parce qu'ils croyaient à ce projet-là. Alors effectivement...
Tu vois qu'ils l'ont fait pour le fun aussi.
Exactement.
Juste dans les derniers 6 mois, qu'on parle de Innocent, Les Affamés, Le Problème d'infiltration, l'année passée, on avait King Dave, qui sont tous des films québécois extraordinaires, qui tirent à la même enveloppe, au même endroit que ce ramassis, ce gaspillage de bandes de films.
Oui.
Il y avait aussi le film qu'on a vu...
Nous sommes les autres.
Ah oui! Qui apparemment aussi est excellent.
Exactement. Donc, Nous sommes les autres, qui est exactement un... Nous sommes les autres, qui est un autre film québécois qui est sorti cet automne, qui expérimentait quelque chose, puis qui allait à 100% dans le concept qu'il expérimentait, puis ça, c'est très payant, en fait.
Mais c'est sûr.
Tu parlais de comédie tantôt,
mais c'est ça.
Qu'il n'y avait pas de risque, là. Juste Bon Cop, Bad Cop, le premier, on en parle encore comme étant un miracle de comédie de langue vraiment intéressant. Le deuxième qui réussit à aller dans la maladie et qui réussit quand même à nous faire rire et qui se met vraiment en danger parce qu'on le sait qu'au Québec, dès qu'on parle de bilinguisme, dès qu'on parle de relations avec Ottawa, la marde pogne. Je suis fâché contre ce film-là parce que ce film-là est tous les stéréotypes du mauvais cinéma québécois. Ce film-là va recevoir 3,5 sur 5 sur la seule base qui est québécois, alors qu'il mérite à peine le 2 heures que j'ai passé dans la salle. C'est vraiment juste parce qu'on faisait cette chronique-là aujourd'hui, parce que sinon, après une demi-heure, je sortais.
Eh bien, c'est... Ben après une demi-heure...
Puis je regrette parce que y a rien de mieux qui est sorti après la première demi-heure.
Le flashback.
Encore là.
En tout cas, mais...
Mais je pense que Louis t'a dit quelque chose d'intéressant tantôt. Les personnages secondaires de ce film-là sont bons. Puis, je n'y avais pas pensé. Puis, tu m'as dit ça, tu nous as dit ça tantôt, tu nous as partagé cette réflexion-là. Puis, ça, c'est un point non négligeable quand même à souligner de ce film-là. Je pense qu'on est allé chercher des acteurs qui étaient assez bons, assez forts.
J'ai même pas, c'est vraiment pas des acteurs, c'est des actrices qui font un travail extraordinaire.
Mais je pense mais, que. Moi, je trouvais qu'Estelle était extrêmement bon son rôle. C'est l'histoire qui n'avait pas de sens.
Oh, oui, mais tous les acteurs font un travail extraordinaire dans ce travail-là. Je pense que même que Martin Mann fait beaucoup d'efforts vu son parcours puis ce qu'on lui donne. Mais je pense que où on leur a manqué de respect puis où est-ce que le film s'écroule, c'est au niveau du texte. Ouais. Je sais pas qui a écrit ça, mais j'aimerais sincèrement qu'il trouve un autre projet que le cinéma.
Bon, ben, le message est passé.
Ouais, c'est le gros problème de ce film-là, c'est au niveau du scénario. Parce qu'on a des personnages secondaires que j'ai trouvé très forts, très...
C'est même pas le scénario, là. Je pense que le scénario aurait pu aller quelque part de cool. C'est l'écriture des blagues. C'est vraiment, là, les dialogues sont pourris. C'est le... Il y a rien d'intéressant qui se passe.
Mais ne serait-ce que le thème, je veux dire, le thème, il était bon. Il y avait de quoi à faire avec ça, le concept de trip à trois, mais derrière ça, se cachait l'affirmation de soi, la femme qui essaie de disons, transpercer l'espèce de limite de sa sexualité pour...
La crise de la quarantaine.
La crise de la quarantaine, dépasser ses limites.
La volonté de sortir de la routine, les difficultés d'avoir un enfant.
Renouveler sa sexualité dans son couple. Il y a un paquet de thèmes là-dedans qui étaient valables, qui nous amenaient tout au long du film dans une direction... Et malheureusement, le film échoue monumentalement.
Lamentablement.
Et lamentablement à nous amener à cet objectif-là. Et on comprend juste pas pourquoi. Mm-hmm. Tous ces thèmes-là, ben, la fin est en complète contradiction avec tous ces thèmes-là qui sont développés tout au long du film.
Non, parce qu'il y a quand même une question d'acceptance de qui ils sont. Je pense que c'est ça que le film essaie de nous faire dire à la fin.
De qui ils sont?
De qui ils sont profondément. C'était une espèce de retour à... Puis c'est ça encore. C'est... Le Québec est né pour un petit pain, faut qu'on est correct dans ce qu'on est. On révélera pas, on fera pas du vulgachère, là, mais...
La fin est faible.
Ouais.
Ce film-là finit sur de la pâte à pain pas faite. C'est mou, c'est un peu gluant, pis ça goûte la marde.
Je pense que Louis, t'as pas aimé ce film-là. Alors, votre note sur 10, monsieur, dame?
Je donne moins 2 sur 10. Je pense que je me sentirais mieux pour ma fin 2017 si j'avais pas vu ce film-là. Ce film-là ne vaut pas le popcorn que j'ai mangé pendant que j'étais là.
On très bien. Pas mangé de popcorn.
Effectivement.
J'ai bu un café, c'est vrai. Ça ne vaut pas le café que j'ai bu.
Alors, Mélina, de ton côté.
C'est vraiment dur à dire, là. Je pense pas que j'irai au point de Louis. Mais. Peut-être avec un 4.
Jim, ta note?
Moi, j'irais avec un 5 contrairement à vous, je me suis pas ennuyé tant que ça durant le film. J'essayais de le trouver bon, mais ça marchait pas. Puis, je veux dire, il y a quand même un travail d'acteur intéressant. Je vois ce qu'on essayait de faire, sauf que l'histoire, c'était pénible. Bon, il y avait des bons moments quand même. J'ai ri à certains moments, ce qui fait que, voilà, 5 sur 10.
J'insiste, moins 2, parce que je pense que le cinéma québécois recule de par la présence de ce film-là sur les tablettes.
Mais je pense pas que ce film-là voulait renouveler le cinéma québécois. Je pense qu'il voulait renouveler le portefeuille des producteurs.
Il y a moyen de viser le statu quo. Eux, ils ont même pas réussi.
Alors, on verra si la critique populaire te donne raison.
Non, on passe dans le film québécois.
Bon, mais merci à tous pour cette table ronde. Noël arrive à grands pas. C'est le moment du top 3. C'est le moment du top 3 et cette semaine, on vous présente chacun à tour de rôle notre top 3 des films qu'on aime regarder durant les fêtes. Et Louis, tiens.
Oh, attends un peu, là. Il y a eu une erreur sur le thème. Moi, j'avais pensé que c'était les top 3 de nos films de Noël favoris.
Oui,
bon. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose parce que là, j'aurais inclus la matrice dans cette histoire-là. Mais je vais quand même faire
mon. Allons-y avec les films de Noël.
C'est ça que j'ai préparé. Puis là, je peux pas être un fan de films d'action. Puis parler de films de Noël sans commencer mon top 3 avec en troisième position Piège de cristal.
Oh!
Die Hard, le classique de l'action, Bruce Willis, Alan Rickman dans un film extraordinaire. C'est John McClane qui est un ancien policier qui veut passer Noël avec sa famille. Après s'être fait conduire au gratte-ciel où sa femme et ses enfants célèbrent Noël, il se ramasse dans une aventure extraordinaire à se battre contre des terroristes allemands qui sont joués. En tout cas, c'est vraiment très beau comme film. C'est toute la magie de Noël, c'est-à-dire des guns du verre cassé, des accents brisés, puis des grands blonds avec des muscles qui sortent de partout.
On n'a pas tout à fait la même définition de Noël. Moi, c'est un sapin avec du minou en dessous, puis...
Mais il y a aussi ça, mais dans un gratte-ciel, puis il y a du monde qui meurt.
Ah bon,
fait
okay.
Que, ouais, ça, définitivement, ça fait partie de, comme... mes favoris de Noël. Mon deuxième est quand même un film plus proche de ce qu'on va appeler un vrai film de Noël, ou un film plus... traditionnel de Noël, qui s'appelle Joyeux Noël, qui est une coproduction allemande, britannique, française, belge, puis il y a au moins un autre pays impliqué là-dedans.
International, presque.
Oui, ouais, c'est définitivement international, mais c'est un film historique qui se déroule durant la Première Guerre mondiale. C'est une représentation romancée de la trêve de Noël de 1914. Fait que c'est vu du côté français, britannique et allemand, ce moment où est-ce que les soldats, sans ordre de leur supérieur ou sans... En mettant furieux leur haut commandement, décident d'arrêter de se battre et de partager un Noël, les trois pays ensemble, et de partager des denrées, des traditions, des... C'est vraiment touchant. J'ai eu la chance de voir ce film-là au cinéma
quand il est sorti. C'est vrai que ça doit être bon, ça.
En 2005, c'était vraiment très bon. C'est sûr que ça reste un film militaire, ça reste un film qui y a des éléments patriotiques dedans, mais c'est aussi une belle leçon sur ce que c'est que d'être humain puis ce que c'est que de célébrer Noël.
Bon, ben, c'est bien. Et sinon?
Ben, mon top 1 puis mon film favori
le
que je vais probablement re-regarder cette semaine, c'est un peu controversé comme film de Noël, mais ça se passe pendant le temps de Noël.
Ah, OK.
C'est Les yeux grands fermés. Eyes Wide Shut, Tom Cruise et Nicole Kidman, qui est un film les plus mal compris ou les plus controversés de Stanley Kubrick. C'est aussi le dernier film que Kubrick a réalisé au complet avant son décès tragique. Ça se date de 99, c'est une exploration de la place de la sexualité dans le couple contemporain. Ça se passe tout dans le temps de Noël pour justifier les événements, les espèces de moments, les fêtes, les parties. C'est Tom Cruise qui se ramasse... éloigné de sa conjointe, sa femme, pendant un certain temps, dû à diverses circonstances, qui se ramasse au milieu d'une orgie dans une espèce de palace plein de gens riches avec des masques. Il y a toute une histoire de prostitution bizarre avec le dôte qui lui loue son masque. C'est vraiment... c'est étrange, c'est malaisant presque tout le long, mais... au final, c'est bien ficelé comme une espèce d'explication ou d'exploration de comment est-ce qu'on vit ces moments-là ou comment est-ce qu'on découvre une sexualité de couple saine et nouvelle en même temps.
OK. Je le recommande. Est-ce que le film Trip à 3 a pas réussi à faire, autrement dit?
Non. Je recommande aux plus de 20 ans et je recommande pas quand t'es déprimé. Faut que t'aies une bonne base quand même pour voir Eyes Wide Shut.
Ça remue.
Oui.
Eh bien, merci pour ce top 3. Et Mélina, de ton côté, ton top 3.
Oui, avant de faire mon top 3, je vais juste vous dire, moi, j'ai une petite tradition, en fait, qui n'est pas de regarder des films de Noël, mais qui est de regarder des épisodes de Noël de mes séries favorites.
Ah ouais?
Oui, donc j'aime bien regarder les épisodes de Noël de Grey's Anatomy. Et ce que je voulais dire, c'est que Netflix a publié sur Facebook cette semaine la liste des épisodes de Noël de la série Friends. Et ça donne lieu à une suite de commentaires très drôles.
Qui est une des séries les plus longues de tous les temps, donc probablement qu'il y en a beaucoup d'épisodes de Noël.
J'aimerais bien qu'ils fassent la même chose avec Netflix. Avec Grey's Anatomy, ça m'éviterait de devoir la retrouver à chaque année. Mais sinon, mon autre tradition de Noël, mais je ne l'ai pas mis dans mon top 3 des films de Noël parce que j'en parle quand même souvent, c'est bien entendu la série de films de Harry Potter que je regarde tout le temps dans le temps des fêtes. Mais là, pour un top 3 des films de Noël, je suis allée avec mes films de Noël favoris. Donc, je pense que c'était ça la consigne.
Harry Potter.
Non, c'est pour ça que j'ai fait une petite mention spéciale avant.
OK, je comprends. C'est bien.
Donc, en troisième position, je vais y aller avec le classique « Réellement l'amour » ou bien « Love Actually », qui est une comédie romantique britannique qui est sortie en 2003. Ça se passe à Londres. On suit le destin de plusieurs personnes. Ça commence environ 5 jours avant Noël et c'est un décompte jusqu'à Noël et ensuite on les voit un mois plus tard, je crois. Donc, un très bon film de Noël qui fait du bien en buvant un chocolat chaud. Ensuite, comme deuxième film, c'est en fait une trilogie, mais j'ai sélectionné seulement que le premier film parce que c'est vraiment le meilleur.
D'accord.
C'est en anglais Meet the Parents, donc le titre québécois La Belle Famille, donc aussi également un film qui est sorti en 2000. c'est avec Robert De Niro, qui n'est pas français.
Non,
et,
non.
Et Ben Stiller, on a aussi Owen Wilson dans ce film-là. Sûrement que vous vous rappelez de ce film-là, c'est Ben Stiller qui va rencontrer les parents de sa copine à Noël pour le demander, pour la demander, en fait, demander sa main à son père, le père qui fait croire qu'il est un fleuriste, mais qui est en fait un ancien agent de la CIA. Et qui se passe, le gars arrête pas, là, Ben Stiller arrête pas de faire de s'embourber dans différents trucs et ça donne lieu à des situations très drôles. Et pour mon premier film, c'est un autre film aussi qui est sorti en 2004, donc je pense que mes films de Noël, ils datent un peu, mais...
Non, c'est pas grave, il n'y a pas d'âge pour le cinéma.
Exactement, donc le titre original, Christmas with the Cranks, le titre québécois, Noël avec les Cranks, il passe à chaque année à Télé-Québec.
Oui.
C'est un très bon film.
C'est bon, ça.
Oui, c'est... En fait, je ne savais pas, mais c'est basé sur le livre de John Grisham. Donc, c'est la fille qui décide de partir en voyage humanitaire et qu'elle sera pas là pour Noël. Alors, les parents, ils décident qu'ils vont partir faire une croisière, mais finalement...
Ils feront pas Noël.
C'est ça, mais là, finalement, elle décide qu'elle va revenir passer Noël avec sa famille. Fait que là, ils sont tous à la dernière minute.
Là, il y a les voisins qui leur mettent de la pression pour qu'ils décorent leur amant.
Il faut qu'ils aillent chercher une dinde, puis c'est un très
quand
bon
même bon,
film.
Quand même bon,
oui, c'est un classique ciné-cadeau à chaque année. Donc, voilà.
Merci, Mélina. Et moi, de mon côté, Louis me regarde avec mes prix.
J'ai des opinions sur le Noël avec les Cranks.
Mais attends, tu vas en avoir sur mon premier
et
film, mon top 3. Le sapin en déboule, je sais que c'est vraiment pas original, mais ce film, maudit film-là, me fait encore rire aujourd'hui, malgré le fait de n'avoir 20 ans que je le regarde. Je le trouve encore drôle, Louis. Louis est tout recroquevillé sur lui-même. Je sais pas si c'est de la colère ou de la joie, mais dans tous les
c'est
cas...
C'est pas de la joie. Ça peut être un paquet d'affaires, mais je te jure que c'est pas de la joie.
Sinon, mon top 2, deux films côte à côte, en fait, de la même série. Home Alone, Maman, j'ai raté l'avion 1 et 2, qui, pour moi, est un énorme grand classique extraordinaire des années 90 que j'ai vu ô combien trop souvent, mais que je trouverai encore aussi drôle et touchant. Le jeune Kevin, qui, seul à la maison, fait des pièges pour protéger son château fort contre les méchants et stupides voleurs. Aïe, 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 c'était ça, ça a bercé mon enfance. Sinon, mon numéro 1 de film de Noël, pour Noël en tout cas, serait Hugo Cabret de Martin Scorsese. Encore un film, je dirais, entre l'animation et le film normal, parce qu'on est dans une animation très réaliste et tournée avec des acteurs. Ça raconte l'histoire d'un orphelin qui vit dans une gare de Paris pendant les années 30 et qui découvre un mystérieux secret avec un automate qui l'amènera à rencontrer nul autre que Georges Méliès, le fameux réalisateur de films et grand inventeur des effets spéciaux français. Donc, extraordinaire film, touchant, c'est beau, c'est mignon, on ressent un peu la misère des années 30, c'est vraiment très 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 bien. Donc voilà, c'était mon top 3. Merci Louis, merci Mélina, c'est déjà la fin de Cinébrunch. On se retrouve samedi prochain, 11h, pour une autre édition de Cinébrunch et on vous parlera entre autres de nos meilleurs films de 2017. D'ici là, rendez-vous sur notre site web cinébrunch.com ou en balado-diffusion sur iTunes, Google Play ou RZO. Ne manquez pas non plus nos publications Facebook occasionnelles qui pourront peut-être vous réjouir et parfois quelques concours. À la semaine prochaine. Joyeux Noël et bye bye tout le monde.
Bonne semaine.
Joyeux Noël.